Alors, nous allons commencer. Je suis heureux de vous présenter Dom Bruno Luce, moine de Solesmes, que j'ai connu à la Pentecôte 2012, quand j'étais un jeune diacre. J'étais allé à Fribourg pour m'inscrire. 2002. Voilà. Pour m'inscrire à l'université où j'allais faire à la rentrée suivante mes études de théologie. Et j'étais tout seul dans cette ville étrangère, dans un couvent dominicain fort glacial. Et le père Bruno m'a très gentiment fait visiter la ville. Dans une bonne après-midi, voilà. D'ailleurs, c'est la seule fois que j'ai visité. Après, parce que je suis parti descendre en deux ans dans la vieille ville. Enfin, voilà. Donc, j'ai bien un bon souvenir. Merci beaucoup. Et puis, aujourd'hui, donc Bruno, je sais que maintenant il est aumônier de Boulor, le successeur de Boulor, le même ordre que nos frères trappistes. Oui. Et comme vous savez que les moines, leur principale activité, c'est la liturgie, hein, l'office, les offices, la messe, etc. Et bien, je vais demander de venir nous parler de la liturgie, source de sainteté. La liturgie occupe beaucoup de place dans nos vies hein, chrétiennes. Comment est-ce qu'elle nous sanctifie? Merci mon père d'être là parmi nous pour nous parler de la Sainte Liturgie.
Je vous remercie mon père de votre... Non, ça marche plus. Est-ce que ça marche? Vous m'entendez?
Oui, ça marche.
Ça marche? J'ai pas une voix très forte.
Alors je vais...
Si vous n'entendez pas, hein, il faut encore rapprocher. Voilà, je ne peux plus lire mon texte aussi. Peut-être comme ça. Non, ça ira. Voilà, on va s'arranger. Si vous n'entendez pas, vous faites des gestes. Bon, je remercie Monsieur l'abbé de m'avoir invité. Je suis un peu confus parce que vous avez l'habitude de recevoir d'éminents dominicains qui passent chez vous. Moi, je suis un pauvre moine, vous savez, qui ne sait pas parler en public. Donc, si vous avez amené des tomates, eh bien, il faudra les jeter à monsieur l'abbé ce soir. C'est lui le responsable. Elles ne sont pas mûres, tant mieux. Voilà. Donc, je vais vous parler de suivant le sujet, comme j'ai pu le traiter, parce que vous imaginez bien que c'est très vaste. Et c'est en fait avant tout une histoire de l'âme, enfin de chacun de vous hein, qui s'engage dans le mystère de la liturgie. J'ai intitulé cette conférence « Une action sacrée pour la sanctification de l'homme ». Alors vous savez que l'originalité typique du christianisme, celle qui fait de lui, si vous voulez, un phénomène un peu unique dans l'histoire, même unique, hein, c'est de n'être pas à proprement parler une religion, mais une foi. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ceci, le dynamisme de ce phénomène ne vient pas de l'homme qui cherche à atteindre Dieu hein, comme un sommet de sa recherche personnelle, mais de Dieu qui se met à la recherche de l'homme. Vous voyez, c'est le mouvement inverse. La religion naturelle, elle va monter. C'est l'effort de l'homme qui cherche Dieu, alors que le christianisme, c'est Dieu qui descend à nous. Hein. Et ensuite, nous pouvons lui répondre avec son amour. Donc Dieu se met à la recherche de l'homme, il vient à sa rencontre, il lui révèle le mystère de sa vie intime. Et l'événement central, évidemment, c'est l'incarnation du Fils de Dieu, qui est parfaitement éclairant à ce sujet. Le Christ est le Fils de Dieu incarné pour nous, donc il confère le salut à une humanité qui, sans lui, serait absolument incapable, non seulement d'arriver par ses propres forces, jusqu'à l'authentique visage du divin, mais même du visage de Dieu, évidemment, mais même de découvrir pleinement le sens de sa propre existence. Donc c'est Dieu qui vient nous dire, nous révéler son mystère, et nous dire notre place, son dessein sur nous. C'est pour cela que lorsqu'on parle de la vie chrétienne, on doit en parler toujours comme d'un appel d'en haut qui précède et qui rend possible une réponse. Comme d'une grâce dont procède une responsabilité, mais une grâce qui précède la responsabilité, comme un don inattendu, inespéré, inouïe, qui ont fait naître un autre en retour, notre don à nous-mêmes, notre foi, notre réponse de foi. Et c'est de cette initiative qu'il faut partir aussi lorsqu'on aborde le grand thème de la prière, du chemin spirituel de l'homme et donc de la vie liturgique de l'Église. Dans ces domaines aussi, en effet, il y a des signes clairs que l'intervention du Seigneur précède toute activité humaine, quelle qu'elle soit. En effet, il n'y a pas de prière chrétienne qui ne doive avant tout à l'Esprit Saint son éveil dans le cœur de l'homme. Il n'y a pas d'itinéraire spirituel qui ne vienne de la grâce sanctifiante. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Voilà. On ne peut pas appeler Dieu notre Père sans la grâce. On ne peut pas dire Jésus est Seigneur sans le don de l'Esprit Saint. On ne peut pas imaginer une vie liturgique qui n'aurait pas pour premier protagonisme le Christ lui-même dans l'exercice de son rôle sacerdotal, celui qui nous unit à Dieu. Et ici, je vous fais une citation du Concile Vatican II, sa constitution sur la liturgie, Sacrosanctum Concilium, au numéro 7, qui dit ceci. C'est donc à juste titre que la liturgie est considérée comme l'exercice de la fonction sacerdotale de Jésus-Christ. Fonction dans laquelle la sanctification de l'homme, voilà notre sujet, la sanctification de l'homme est signifiée par des signes sensibles et réalisée d'une manière propre à chacun d'eux. Fonction dans laquelle le culte public intégral est exercé par le corps mystique de Jésus-Christ, c'est-à-dire par le chef et par ses membres. Vous voyez, le baptême a fait de nous les membres du Christ, et dans la liturgie, c'est tout le corps du Christ qui s'exprime, la tête et les membres que nous sommes. Par suite, poursuit le Concile, toute célébration liturgique, en tant qu'œuvre du Christ prêtre et de son corps qui est l'Église, est l'action sacrée par excellence dont nulle autre action de l'Église ne peut atteindre l'efficacité au même titre et au même degré. Vous voyez comment le Concile place la liturgie, hein ? L'action sacrée par excellence dont nulle autre action de l'Église ne peut atteindre l'efficacité au même titre et au même degré. Dans ce texte conciliaire, il est nécessaire, du point de vue qui est le nôtre ici, de souligner deux expressions très importantes, à savoir sanctification de l'homme et action sacrée par excellence. Le lien qui existe entre ces deux éléments de la liturgie explique pourquoi le texte qui vient d'être cité constitue une porte d'accès à notre thème. L'âme humaine, c'est-à-dire l'homme, vous savez que l'âme dans la Bible dit tout l'homme, hein, l'âme humaine est appelée à marcher vers Dieu et donc à se sanctifier personnellement. Voilà quelle est l'œuvre première et capitale de sa vie, son devoir principal. Pie XII l'avait développé dans l'encyclique Mediator Dei. Cette tâche est réalisable à partir de l'action sacrée par excellence que constitue la liturgie, donc cet acte de sanctification de l'homme. Sacrée parce qu'elle est action du Christ et de son corps qui est l'Église, sacrée parce qu'elle est mise en œuvre du rôle sacerdotal du Christ, sacrée parce qu'elle est constituée telle par la puissance et l'amour du Saint-Esprit. Comme l'affirmait Jean-Paul II dans sa Redemptoris Sacramentum, la liturgie est le lieu privilégié pour rencontrer Dieu et celui qui l'a envoyé, Jésus-Christ. En effet, les paroles et les rites de la liturgie sont l'expression fidèle, mûrie au cours des siècles, des sentiments du Christ. Elles nous apprennent à épouser avec lui ses sentiments. L'âme guidée par ses paroles et ses gestes, nous élevons nos cœurs vers le Seigneur. Sursum corda, nous avons le cœur tourné vers le Seigneur. De la sorte, nous sommes invités à nous rappeler qu'il existe un lien absolument vital entre la liturgie et la perfection de la charité. Et on l'oublie peut-être un peu trop, voyez ? Entre le mystère du Christ et l'itinéraire de l'homme vers Dieu, entre ce qui est sacré et ce que l'expérience de la foi nous fait ressentir comme saints. S'il n'est aucune action de l'Église dont l'efficacité égale celle de la liturgie, comme vient de le dire le Concile, cela veut dire très exactement que la possibilité de parler de façon adéquate d'un chemin vers Dieu, d'un itinéraire spirituel vers le Seigneur, existe par-dessus tout lorsque l'on part de cette action sacrée par excellence qu'est la célébration liturgique. Alors arrêtons-nous un instant, si vous voulez, sur ce mot « sacré » qui est un peu piégé. La liturgie constitue le sacré, elle en est le lieu privilégié, elle en détermine et développe le sens. Alors qu'est-ce que le sacré à proprement parler ? Il vaudrait mieux formuler la question ainsi, qui est le sacré ? Voyez ? Parce que le sacré, ça peut rester quelque chose de très nébuleux. Le sacré, il existe dans les religions naturelles, vous voyez ? C'est le tremendum, voilà. Le sacré, quelque chose qu'on a peur d'approcher. Et nous, il vaut mieux poser la question, qui est le sacré ? Et le sacré, vous le savez, bien, c'est le Seigneur Jésus lui-même, selon une belle expression de saint Thomas d'Aquin qui dit « Sacrum absolute ipse Christus ». Le sacré, absolument parlé, c'est le Christ lui-même. Ce sacré est exprimé dans la liturgie grâce à l'action du Saint-Esprit par des signes efficaces et éducatifs. Vous le savez, pour participer vous-même à la liturgie, elle a toute une dimension pédagogique. Ceux-ci disent à l'homme qu'il est sauvé et donc ne se sauve pas lui-même. On revient à notre thèse du départ, que c'est un don. Que le salut, en conséquence, est une grâce, toujours un don d'en haut, puisque personne ne le trouve en soi-même de façon autonome, à sa naissance. Qu'en d'autres termes, l'œuvre de notre rédemption consiste pour nous à accueillir chaque jour le mystère du Christ et d'y participer le plus pleinement possible, le plus intensément possible. La liturgie est essentiellement une action de Dieu, axio dei, qui nous atteint en Jésus par l'entremise du Saint-Esprit, avant d'être une réponse de l'homme. Elle est cette action intime de Dieu. Comme l'a rappelé Benoît XVI, qui à l'époque n'était que le cardinal Ratzinger, dans une conférence qu'il avait faite dans un monastère en France en 2001, il a dit ceci, « Dieu agit dans la liturgie à travers le Christ, et nous ne pouvons agir qu'à travers lui et avec lui. » Vous voyez ? Donc, nécessité d'une union absolument intime avec le Christ, qui est l'acteur, vous voyez ? Et nous participons à son action. Mais nous ne sommes pas les moteurs. Nous nous laissons prendre et entraîner. Donc vous le voyez, la liturgie possède sa sacralité propre, sa sainteté, si vous voulez, objective. Et chacun de nous doit y puiser pour pouvoir progresser sur le chemin de sa propre sainteté, de sa sainteté personnelle et subjective. Donc cette dimension objective de l'action divine en nous et cette réponse subjective de notre part, qui est notre engagement, notre mise en vie, si vous voulez, de notre baptême. C'est dans ce lien avec le sacré, et donc avec une réalité objective antérieure à nous, dans l'ordre de la grâce, toujours, que se trouve le caractère spécifique de l'itinéraire de l'âme vers Dieu à partir de la liturgie. Peut-être voit-on maintenant plus clairement pourquoi ce texte que j'ai cité de Sacrosanctum Concilium est tout à fait un lieu important de notre sujet. Nous trouvons là le fondement autorisé qui permet de concevoir l'itinéraire de l'âme, donc ce chemin de sanctification vers Dieu, comme enraciné dans la liturgie. C'est seulement là où est le Christ, ressuscité des morts, où le Christ ressuscité des morts se rend présent par l'action du Saint-Esprit et où l'homme se laisse saisir par Dieu, transformé et guidé dans sa foi, qu'on peut vraiment parler de chemin de sainteté, d'itinéraire vers Dieu. Vous voyez, le mystère central, c'est vraiment le mystère de la Pâque. C'est très bien qu'on puisse faire cette conférence en carême, puisqu'en fait, tout est focalisé et tout est unifié, vous voyez. La vie de l'Église, la liturgie de l'Église, c'est le mystère pascal, sans cesse assimilé de plus en plus. Voyez. Il est unique, c'est le culte parfait rendu au Père par le Christ, auquel nous sommes associés en tant que corps. Donc on ne fait que célébrer à travers tous les sacrements ce mystère pascal du Christ. Alors, sachant dont nous partons, nous devons maintenant expliquer, au moins en partie, quelles sont les étapes de l'itinéraire d'une âme vers Dieu, en commençant par l'expérience du sacré dans la liturgie, c'est-à-dire par la rencontre, dans l'action liturgique, de la présence agissante, opérante du Christ. Alors, je vais commencer par la Sainte Écriture. Le Concile, toujours de Sacrosanctum Concilium, dit « Le Christ lui-même est présent dans sa parole, car c'est lui qui parle lorsque dans l'Église on lit la Sainte Écriture. » C'est lui qui parle, oui, quand dans l'Église on lit la Sainte Écriture. On ne peut partir que de là pour expliquer quel rôle, dans le chemin de l'âme vers Dieu, est départi à la parole de Dieu, écoutée avec attention, avec foi, dans une action liturgique. À ce propos, je ferai trois remarques qui me semblent importantes. Premièrement, il y a d'autres lieux, bien sûr, d'autres moments que ceux des célébrations liturgiques, vous le savez, pour écouter personnellement et avec fruit les Saintes Écritures. Vous le faites tous. Hein. Pensez à l'évangile du mercredi des cendres. Toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, vous faites ce mouvement souvent. Et vous écoutez la parole de Dieu, vous la méditez. Cependant, nous le savons, la parole de Dieu écoutée durant une célébration liturgique est accompagnée de façon toute particulière par l'action du Saint-Esprit qui lui fait produire des fruits dans le cœur des fidèles. Vraiment une action spécifique au cœur de l'action liturgique où le Christ lui-même, l'Esprit-Saint, parle à son Église et parle donc à chacun de nous. L'Écriture, dans sa proclamation par l'Église, lors d'une action liturgique, est la parole vivante et actuelle de Dieu, de sorte que devient possible un rapport personnel entre Dieu et l'homme à travers le déroulement du temps. Dans la liturgie orientale, quand l'Évangile va être proclamé, le diacre dit « Soyez attentifs, le Christ va parler. » Donc ça peut être important pour nous quand on se lève pour même les lectures, évidemment, mais ça vaut encore plus pour l'Évangile. Voilà, le Christ va parler dans son Église, il parle à son Église et il me parle aussi. Et il agit. J'ai pas besoin de susciter quoi que ce soit de façon artificielle, il est là qui agit et je dois m'ouvrir à son opération en moi. Voici ce que dit saint Ambroise dans le commentaire d'un passage de la Genèse. Que signifie la promenade de Dieu dans le paradis, puisque Dieu est toujours partout ? Ceci, je crois, Dieu se promène à travers les divers textes des divines écritures dans lesquels il est toujours présent. Alors voilà bien l'expérience toujours nouvelle qui s'offre à l'âme lorsqu'elle écoute la parole de Dieu au sein de l'Église réunie pour prier. Qu'on l'écoute, qu'on la lise, qu'on la proclame ou qu'on l'annonce, l'Écriture sainte veut être approchée et accueillie avec l'étonnement reconnaissant de la foi, de cette foi qui sait reconnaître ici et maintenant la voix de son Seigneur qui parle à son peuple, qui s'adresse à chacun de façon personnelle et unique. C'est vraiment le Christ qui parle à la communauté rassemblée, comme autrefois il parlait dans la synagogue de Nazareth ou au temple, lorsque tous les yeux étaient fixés sur lui. La voix humaine du lecteur qui retentit dans le lieu sacré n'est qu'un signe qui nous renvoie à la voix même du Christ, retentissant aujourd'hui dans le temps de notre vie. Oui. La liturgie, il y a un mot qui revient beaucoup dans la liturgie, c'est aujourd'hui. Oui. Notamment au moment de Noël, dans la liturgie grégorienne, il y a beaucoup d'antiennes de fêtes où c'est odier, aujourd'hui. Oui. Pourtant, c'est un mystère il y a 2000 ans, mais c'est aujourd'hui qu'il s'accomplit. Très important, hein. Le temps de la liturgie nous rend en permanence contemporain du mystère. Ainsi, grâce à la liturgie, l'âme apprend par expérience directe ce que signifie écouter et accueillir la parole de Dieu, non comme une parole humaine. Pensez à saint Pierre dans sa première lettre, vous l'avez accueilli non pas pour une parole humaine, mais comme la parole de Dieu lui-même, voyez. Non pas comme une parole humaine, mais pour ce qu'elle est vraiment, voyez. La parole de Dieu qui juge toute autre parole se faisant entendre dans le monde. De plus, l'action liturgique a l'avantage de soustraire aussi, quelque part, les pages de l'écriture à nos goûts subjectifs et transitoires. Ils ne sont pas toujours mauvais, hein. Faut pas se culpabiliser. Mais elle a cet avantage. En transmettant ces textes au cœur de l'homme comme la voix de Dieu à recueillir dans le moment présent pour la vie personnelle. Vous voyez, l'Église, c'est elle qui nous donne à entendre ces textes. Le cycle liturgique, ce n'est pas rien, vous voyez. Ce n'est pas des textes livrés au hasard. J'ouvre ma Bible, je tombe sur un texte, non. Il y a toute une pédagogie, et l'Église, qui est notre mère, elle nous donne autant opportun cette parole de Dieu, voyez, comme le bon serviteur qui distribue le grain. Il faut être attentif aussi. La grâce de la parole quotidienne. Vous voyez, vous avez tous ces petits missels qu'on fait aujourd'hui, qui sont très très pratiques, on peut l'avoir dans la poche. Eh bien, c'est cette parole pour aujourd'hui. Elle a quelque chose pour moi aujourd'hui à me dire, parce qu'elle m'est donnée par la main maternelle de l'Église. Très important. Donc, la priorité n'est pas donnée aux dispositions intérieures de chacun, si belles soient-elles, mais à ce que, dans l'aujourd'hui, je vous parle de cette odier, de l'action liturgique, le Seigneur désire dire à son peuple pour le former à la vie évangélique. Et vous savez que cette parole, alors vous allez me dire, on la répète tous les 3 ans, là, ça vient, on la connaît, hein. Mais non, elle est vivante, hein, comme disent les Hébreux. Elle est comme un épée, hein, un glaive à double tranchant qui va jusqu'au fond du cœur, qui distingue les pensées. Et donc elle est toujours nouvelle, vous voyez. Même si je la sens de la connaître par cœur, je ne la connais pas. C'est elle qui doit me connaître, oui, je dois me laisser connaître par elle. Elle a une profondeur insondable, la parole de Dieu. Je ne peux pas la réduire à ce que j'en comprends. Si vous voulez, c'est comme un océan, la parole de Dieu. Plus on avance, plus il y a d'eau, vous voyez. Mais il faut s'y noyer un peu, comme dans le mystère. Vous voyez, si la chose dépendait uniquement de nous, nous nous mettrions à chercher dans l'Écriture le passage le plus susceptible de convenir, ici et maintenant, dans mes attentes spirituelles subjectives. Et ça arrive, oui, je suis dans la tristesse, donc je cherche un texte de joie. Mais peut-être que la tristesse peut être un passage pour moi, oui, un chemin spirituel aussi, permis par le Seigneur, que je ne cherche pas tout de suite une consolation en mettant de côté, eh bien, tout le cri des pauvres de la Bible. Vous voyez, le psalmiste, il ne dit pas que des choses rigolotes, hein. Je ne sais pas si vous avez l'habitude de lire les psaumes, mais quand on a l'habitude de dire le Fils quotidiennement, hein. Dans les monastères, on dit le psautier en une semaine, hein. Donc on finit par... ça revient. Eh bien, les psalmistes, ils y vont, hein. Ils disent leur colère, hein. Ils disent leur détresse. Alors il y a des actions de grâce, il y a des... Mais voyez, et donc l'Église, elle nous donne cette parole, et je ne dois pas choisir, je ne fais pas le tri suivant mes attentes purement spirituelles et personnelles. Mais je me laisse interroger. Vous voyez, avec la liturgie, ce n'est pas possible si je l'accueille avec foi. Hein. Quelle que soit la situation personnelle dans laquelle nous nous trouvons, la parole de Dieu nous est d'une certaine façon donnée sans tenir compte de nous. Et pourtant, elle est pour nous, elle nous rejoint. Parce que c'est elle qui nous attire, voyez. C'est pas nous qui la formons à notre image, mais c'est nous qui devons nous laisser transformer par elle. Nous sommes invités à sortir de nous-mêmes et de notre petit monde pour entrer dans le monde infiniment plus grand, plus vaste, de la volonté de Dieu, qui dans cette parole écoutée en Église réjouit l'homme comme un don inattendu et une norme de vie. Vous voyez, la volonté de Dieu, c'est notre sainteté, dit saint Paul. Vous voyez, c'est notre sainteté, dit saint Paul. C'est ça la volonté de Dieu. C'est pas que j'ai mal, que ce soit quelque chose de lourd à porter. C'est curieux, la volonté de Dieu, on la voit toujours quand on est à l'hôpital ou là, je veux faire la volonté de Dieu. Mais quand je pars en vacances, je dis pas c'est la volonté de Dieu. Et pourtant, c'est peut-être ça aussi. Vous voyez. Mais c'est avant tout notre sainteté. Et c'est dans l'écoute patiente, avec foi de la parole de Dieu, que je découvre cette volonté sur moi. Ce n'est pas un fardeau, une croix toujours à porter. Hein. C'est un chemin de vie, un chemin de liberté. Alors voilà quelle est la grâce de la parole écoutée dans une action liturgique. Grâce d'entrer en participation avec un dessein plus grand que nous. grâce d'apprendre à écouter vraiment, d'être capable de mettre de côté nos propres priorités pour nous rendre ouverts à la priorité de Dieu. Et je quitte mon petit moi, ma petite sphère, mes inquiétudes, mon confort, pour rentrer dans la pensée de Dieu, oui, qui me fait la grâce de me faire participer à sa pensée. Oui. La pensée du Christ, c'est nous qui l'avons, dit encore saint Paul. Il avait compris beaucoup de choses, lui. Hein. La pensée du Christ, c'est nous qui l'avons. Donc notre petite pensée, eh bien, il faut qu'elle soit englobée dans cette pensée du Christ, hein, qui est notre salut, encore une fois, et donc notre sanctification. Voilà, grâce, cette écoute, grâce d'être formé à faire de notre vie un acte d'obéissance dans la foi à la volonté de Dieu. Et encore une fois, cette volonté, elle est bonne. Elle est pour notre bonheur, voyez. En d'autres termes, il s'agit de s'ouvrir à la puissance bienfaisante de la vérité qui ne dépend pas de ce qui est transitoire, émotionnel ou contingent. Pour qu'une telle grâce puisse être accueillie, nous avons besoin de l'action intime de l'Esprit-Saint, évidemment, qui rend agissante la parole de Dieu dans notre cœur. C'est même pour cela que l'Institutio Generalis, donc la préface, si vous voulez, du Missel Romain, je ne sais pas si vous l'avez déjà lu, mais c'est un texte intéressant. Il est souvent... Il n'est pas connu, hein. Je ne sais pas si la plupart des prêtres l'ont lu, mais ça vaut le coup quand même. La préface donc, du Missel nous rappelle que la liturgie de la parole doit être célébrée de façon à favoriser la méditation. On doit donc absolument éviter toute espèce de hâte qui ferait obstacle au recueillement. Il est opportun aussi d'y observer de brefs temps de silence en tenant compte de la nature de l'assistance. Évidemment, si c'est une assistance d'enfant de la maternelle, ce sera plus difficile. Encore qu'on peut faire poser les enfants... pour permettre avec l'aide de l'Esprit-Saint que la parole de Dieu soit écoutée dans le cœur et qu'on se prépare à y répondre par la prière. Vous voyez ce mouvement d'écoute, et je vais répondre par la prière, par ma foi. J'accueille dans la foi et je réponds. C'est l'annonciation, hein ? Alors la Vierge qui dit oui. Et donc notre oui aussi à dire à cette parole de Dieu qui nous est donnée gratuitement, hein, en nourriture. C'est seulement ainsi que l'âme deviendra capable de prolonger son écoute authentique de Dieu, qui lui parle aussi par d'autres voies que celles de l'expérience liturgique, évidemment. Ce n'est pas l'unique canal, vous le savez bien. Mais c'est quand même l'action qui est au sommet de toutes les actions de l'Église. On est sûr qu'il parle là. Vous voyez, une objectivité. C'est pas... Pour lire les événements, ce n'est pas toujours évident. Mais là, je sais, c'est sa voix, c'est lui qui parle. Dans la relation personnelle avec le texte sacré, confronté avec les divers événements de la vie et de l'histoire, en cherchant à comprendre le sens des élans de notre cœur et dans l'effort pour discerner parmi nos inspirations intérieures celles qui méritent d'être retenues. Donc vous voyez que la parole de Dieu va nous permettre cette lecture des événements. Elle va nous permettre de reconnaître cette voix de Dieu ailleurs, dans les frères, dans les événements, dans ce qui m'est demandé, dans ce qui m'arrive. Voyez. Si j'ai écouté la parole de Dieu, je reconnaîtrai sa voix. Enfin, il est bon d'ajouter aussi que dans la célébration liturgique, l'homme n'incline pas le Seigneur vers lui, car c'est au contraire le Seigneur qui conduit l'homme jusqu'à sa propre intimité. Comme dans la communion eucharistique, saint Augustin le dit bien, ce n'est pas moi qui transforme le Christ, qui assimile le Christ, comme quand je mange du pain, il devient moi, le pain, je le transforme en moi. Là, c'est le contraire. Quand je communie au Christ, je mange le pain du Christ, je suis transformé en lui. C'est ça qui s'opère dans la parole, l'écoute de la parole de Dieu. Vous voyez ? L'homme n'incline pas le Seigneur vers lui, je ne le fais pas descendre, mais c'est lui qui me fait monter. C'est quand même mieux, hein ? L'Église, en tant que sujet vivant, écoute et interprète dans sa liturgie la parole que Dieu lui adresse. Et chacun est appelé à entrer dans cette unique écoute et cette unique interprétation sans se laisser aller à des manipulations qui conduiraient à s'écouter soi-même au lieu d'écouter Dieu. Donc là, il y a aussi toute la question de l'interprétation de l'Église qu'on appelle le magistère. voyez, les protestants, ils ont voulu retenir la seule écriture, donc quelque part ils l'ont ramené à une forme de subjectivisme qui est un peu déséquilibré parce qu'il leur manque cette assurance, vous voyez. Chacun va interpréter suivant ce qu'il comprend. Eh bien, nous nous sommes libérés de ça, vous voyez. Une tentation qui revient souvent dans l'expérience de la foi, c'est de rapetisser la parole du Seigneur à notre mesure, de falsifier ainsi la voix de Dieu jusqu'à la tordre pour lui faire dire ce qu'on veut. C'est ainsi qu'il peut arriver qu'une foi issue d'une écoute viciée à la racine prenne une fausse tournure, non ecclésiale, en disharmonie avec le projet de Dieu. Et c'est là qu'on va discerner, voyez, les inspirés ou ceux qui ne le sont pas. Un vrai mystique d'un faux mystique. Peut-être que le mystique, le faux, entre guillemets, il a commencé par écouter la parole, et puis il l'a tirée à lui, et c'est lui qui est devenu l'artisan de cette parole, plutôt que de se laisser conduire. Et c'est toujours l'Église qui va donner le sceau du discernement, donc dans l'obéissance, qui peut être crucifiante. Hein. Quand on voit dans la vie des saints, ils ont pu souffrir de l'Église. Oui. Pensez à Padre Pio, je ne sais pas si vous connaissez la fondatrice des Petites Sœurs des Pauvres, Jeanne Jugan. Voilà. Elle a quand même souffert pendant 40 ans de sa vie, elle était mise à l'écart, dans un placard. Et même quand elle est morte, sur sa tombe, on a marqué « Troisième Petite Sœur des Pauvres », la fondatrice. Vous voyez, bon. Mais elle a offert ça vraiment en union avec la croix du Christ, elle ne s'est pas révoltée. Elle n'a pas dit « C'est mon œuvre », vous voyez. C'était l'œuvre de Dieu qui s'est servie d'elle. Donc vous voyez, la liturgie de l'Église protège la parole de Dieu des réductions arbitraires, des interprétations erronées, la distribuant dans son intégralité, dans sa vérité, de sorte que tout le mystère du Christ qui est contenu là puisse être écouté et devenir source d'un nouveau mode de penser et de vivre. On se laisse modeler par la parole chaque jour. Et vous connaissez l'importance dans la vie monastique de la Lectio Divina. C'est ce temps en dehors de la liturgie et qui prépare la liturgie et la prière où le moine et la moniale se mettent en écoute. Voilà. Et ça, chacun de vous est appelé à le faire. Ce n'est pas une spécialité monastique, c'est simplement la vie chrétienne. Voyez. Alors, vous avez peut-être moins de temps, mais les moines et les moniales, ils choisissent de prendre du temps pour ça. Uniquement pour ça, où je vais me promener dans le jardin des Écritures et progressivement me laisser imprégner de la pensée de Dieu, apprendre à le connaître. C'est pas facile de connaître Dieu. On ne peut pas mettre la main sur lui. Il se dit, il se dévoile doucement. Donc arriver à reconnaître son dessein dans l'histoire sainte. Voyez. Donc c'est seulement ainsi que l'âme chrétienne acquiert progressivement la pensée du Christ, revit ses sentiments, devient capable d'un regard sur elle-même et sur le monde, qui est vraiment le regard de la foi de l'Église. C'est justement ce regard de la foi commune que la liturgie est en mesure de préserver soigneusement. Vous voyez, la liturgie, c'est un lieu sûr pour la sainteté. C'est un lieu absolument sûr. Dans cette même conférence à Foncombo, en 2001, le cardinal Ratzinger rappelait que les formes que l'on donne à la liturgie peuvent varier en fonction des lieux et des temps. Il y a une histoire de la liturgie, hein. Comme les rites sont divers. Vous voyez, il y a plusieurs rites, rites byzantins, rites arméniens, rites latins, ainsi de suite. Essentiel est le lien à l'Église, qui, de son côté, est lié par la foi dans le Seigneur. L'obéissance de la foi garantit l'unité de la liturgie par-delà la frontière des lieux et des temps, et nous laisse ainsi expérimenter l'unité de l'Église, l'Église comme patrie du cœur. Ça va, j'ai encore le temps. Maintenant, je voudrais passer à l'Eucharistie, au sacrifice eucharistique, comme autre lieu, après la parole de Dieu. Je cite encore le Concile Sacrosanctum Concellium, numéro 7, le Christ... Comme on vient de dire qu'il était présent dans la parole, maintenant le Concile dit que le Christ est présent dans le sacrifice de la messe, d'une part dans la personne du ministre. Celui qui s'offrit autrefois lui-même sur la croix offre maintenant par le ministère des prêtres s'offre maintenant par le ministère des prêtres au plus haut point sous les espèces eucharistiques. Une telle présence du Seigneur dans son offrande sacrificielle et au plus haut point sous les espèces eucharistiques, comme le dit le Concile, nous conduit au cœur de l'influx de grâce que le sacré liturgique, si vous voulez, exerce sur le chemin de l'âme vers Dieu. Donc à ce sujet, je donnerai deux points de réflexion. Tout d'abord, Saint Paul, un texte des Romains que vous connaissez bien, et des Galates. Romains 12, 1. Je vous renvoie à ce sujet à une très belle audience générale de Benoît XVI du 7 janvier 2009, où il explique ce qu'est le culte spirituel du chrétien à partir de ce texte de Romains 12. Voilà, si vous voulez aller voir. Alors voici le texte des Romains 12, 1. Je vous en prie, frères, par la miséricorde divine, faites de vos corps une hostie vivante, sainte, agréable à Dieu, qui soit votre offrande spirituelle. Et puis dans les Galates 2, 20, j'ai été crucifié avec le Christ, ce n'est donc plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Et ce que je vis maintenant dans la chair, je le vis dans la foi à ce Fils de Dieu qui m'a aimé et s'est livré pour moi. Donc vous voyez, pour Paul, Saint Paul, toute la vie du chrétien est un sacrifice. Et ce sacrifice, non seulement nous réfère nécessairement et continuellement au mystère du Christ, mais il n'est pas autre chose que la présence même de ce mystère, voyez, comme membre de son corps. Le chrétien n'est pas un simple imitateur de Jésus. Ce serait déjà beau, mais c'est beaucoup plus que ça. Ce n'est pas une simple imitation. Comme si on était appelé à recopier de l'extérieur, si vous voulez, un modèle de vie, le plus parfait soit-il. Mais le chrétien est rendu participant du mystère même du Christ, qui lui est rendu présent dans l'offrande sacrificielle de l'action liturgique. Grâce à l'opération du Saint-Esprit, la contemporanéité du mystère du salut et de notre temps humain devient réalité. Vous voyez, quand je suis à la messe, je suis au pied de la croix. J'y suis, hein. Même si c'était il y a 2000 ans, c'est maintenant. J'y suis. Donc vous voyez que nous sommes appelés à devenir un sacrifice vivant, une liturgie vivante. En elle devra revivre l'acte suprême par lequel le Christ s'offrit au Père pour le salut du monde, tout le mystère pascal. Voilà. Ce que nous préparons dans ce cheminement de carême, c'est ça que nous vivons dans la liturgie, que nous devons, auquel nous participons dans notre vie liturgique et la vie quotidienne. Vous voyez, la liturgie se poursuit après, dans la journée. Je vous cite ici un auteur italien, Divo Barsotti, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un bon spirituel, dans un livre qui est sur le mystère de l'Église dans la liturgie. Voici ce qu'il dit. La sainteté de l'homme exige la présence de cet acte, l'acte du mystère pascal, par lequel le Christ s'offre au Père, en voyant parfait sacrifice. La sainteté de l'homme exige la présence de cet acte, et la présence de cet acte constitue le sacrifice. Sacrifice non plus seulement du Christ, mais de l'Église entière. Toute la sainteté de l'Église, toute sa vie, c'est l'Eucharistie, par laquelle l'acte du Christ se rend présent dans l'acte même du prêtre, ministre de l'Église, présent dans et par la communauté de tous les fidèles, puisqu'il n'assiste pas passivement au sacrifice, mais il participe activement comme à l'acte qui fonde et consomme toute leur expérience chrétienne. Vous voyez ? Ce activement, c'est l'offrande que vous faites de vous-même en union à celle du Christ. C'est pas de taper dans vos mains, de... Vous voyez ? Bon, ça peut, je ne sais pas, mais ce n'est pas ça. L'activité, l'action du chrétien, c'est qu'il s'offre lui-même dans cette offrande du Christ. C'est là que vous êtes parfaitement actif. Oui. C'est donc ici que nous trouvons la racine de tout itinéraire possible de sainteté vers Dieu, vous voyez, puisque c'est la sainteté même qui est là, et à laquelle nous sommes rendus participants. Donc il ne faut pas la chercher ailleurs, la sainteté. Ce n'est pas quelque chose que je dois fabriquer, c'est pas des petits actes, oui, c'est cette participation active, plénière, de plus en plus profonde, dans le nom de ma vie, unie à celui du Christ qui se donne au Père. Oui. Ce mouvement de retour. Le Père nous a donné son Fils, et en lui, nous nous offrons à lui. Et c'est ça qui plaît à Dieu. C'est le sacrifice qui lui plaît. Alors si maintenant nous scrutons un peu plus la nature de l'acte sacrificiel du Seigneur, nous y découvrons trois aspects différents. Tout d'abord, le sacrifice du Christ est un sacrifice d'adoration. Par le don radical de sa propre vie, par amour, le Seigneur dit son oui. Il n'est qu'amen, dit saint Paul, il est tout entier amen, tout entier oui, comme la Vierge Marie. Le Seigneur dit son oui, plénier au dessein du Père et à sa volonté. Voilà. Pensez, nous allons revivre le mystère de l'agonie du Christ au Jardin des Oliviers, hein, qu'il ne soit pas fait ma volonté, mais la tienne. Oui. Et c'est là que nous sommes sauvés. C'est l'amen du Christ aussi au dessein de Dieu. Il fallait que le Christ souffrît. Ce « il fallait » mystérieux. Oui. C'est ce chemin que Dieu a choisi pour nous sauver. En lui, la vie de l'homme, donc dans le Christ, la vie de l'homme perd sa dissonance par rapport au projet de Dieu. Vous voyez, l'homme a désobéi. Et on retrouve le chemin du Père dans l'obéissance du Christ. L'accord plein et définitif entre le Créateur et sa créature est en lui restauré. La mort et la résurrection du Seigneur sont le sceau d'une humanité rénovée, parce que sauvée du drame de la séparation d'avec Dieu pour le temps et pour l'éternité. L'Eucharistie, disait Benoît XVI dans un discours à la Curie romaine en 2005, est rencontre de personnes et unification entre elles. Mais la personne qui vient à notre rencontre et désire s'unir à nous est le Fils de Dieu. Une telle unification ne peut s'effectuer que selon les modalités de l'adoration. Recevoir l'Eucharistie signifie adorer celui que nous recevons. C'est bien ainsi et seulement ainsi que nous devenons une seule chose avec lui. Dans la participation liturgique au sacrifice du Christ, l'âme chrétienne devient le temple de la vie nouvelle des fils de Dieu parce que lui est donnée la capacité d'adorer le dessein du Père, le dessein bienveillant du Père. Encore une fois, c'est par bonté. Il faut chasser cette peur de Dieu qui habite le cœur de l'homme pécheur. Ce doute constant posé sur la volonté de Dieu. C'est là que notre adoration aussi, elle doit nous faire grandir, oui. Donc, lui est donnée la capacité d'adorer le dessein du Père et de se mettre en accord avec sa volonté. L'âme devient ainsi vraiment chrétienne, c'est-à-dire à l'image du Christ, chrétien. Le chrétien, c'est celui qui est du Christ. Parce qu'il lui est donné de participer à l'adhésion radicale de Jésus à Dieu et d'y trouver le principe d'une nouvelle humanité. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Oui, c'est ça. Cette simple prière qui peut vraiment remplir notre vie spirituelle, ça suffit. Hein. Le sacrifice du Christ, en second lieu, est un sacrifice de propitiation. Lors de l'immolation sanglante sur la croix de Jésus, en effet, son sacrifice a été aussi une propitiation pour les péchés du monde. Le don sacrificiel de la croix suppose le péché et remporte sur lui la victoire une fois pour toutes, et au profit de tous. Dans la participation liturgique au sacrifice du Christ, l'âme chrétienne est gratifiée d'un pouvoir d'altérité radicale par rapport au mal sous toutes ses formes. Vous voyez, le sacrifice du Christ nous arrache à la mort et au mal. Donc, plus je participe intimement au mystère pascal de Jésus, plus je deviens radicalement opposé au mal, oui. Hors d'état de nuire, c'est être... On ne peut plus me nuire, vous voyez. Quand je passe du côté de Jésus-Christ, je suis arraché par lui. Vous voyez, il y a une préface de Noël qui dit que son amour nous arrache, vous voyez. Nous soyons... Rapi amour, c'est un rapt. Hein, un rapt amoureux du Christ. C'est ici que commence le chemin de l'âme vers Dieu. Ce pouvoir dont elle a été gratifiée devrait être affermi progressivement au cours de son existence. Cette séparation du mal. Donc plus je m'attache à Jésus, plus je m'éloigne du mal. Il devra aussi être à nouveau exercé sous forme de repentir sincère après toute compromission, petite ou grande, avec le péché. Ça, c'est le sacrement de la confession, hein, que je vous invite à recevoir avant Pâques. N'hésitez pas, hein. C'est gratuit. On est toujours pardonné. Il devra ensuite devenir acceptation de la souffrance dans la vie personnelle, comme forme de collaboration avec le Sauveur, dans l'effort pour racheter nos frères auxquels nous unit une même condition pécheresse. Cette participation, c'est bien Saint Paul. J'accomplis en ma chair ce qui manque aux souffrances du Christ pour son corps qui est l'Église. Donc là aussi, nous avons notre place, parce que la souffrance ne nous épargne pas. Enfin, j'imagine que c'est unanime ici. Mais on peut la vivre justement en parfaite union avec le Christ et avec lui intercéder pour le salut du monde. C'est là que les chrétiens, oui, ils sont le levain dans la pâte. Oui. Parce que tous les hommes souffrent, il n'y a pas que les chrétiens. Mais les chrétiens, ils ont acquis ce pouvoir, cette capacité, grâce à leur union avec le Christ, de transformer cette souffrance en vie. Et donc c'est important que nous disions aussi notre oui. Voyez, c'est ça porter notre croix aussi. C'est ça être missionnaire aussi. Il n'y a pas besoin forcément d'aller frapper à toutes les portes, c'est bien, hein. Mais si je vis déjà cette souffrance en union avec le Christ, eh bien je porte beaucoup de fruits. Voyez. C'est l'amour qui porte du fruit. Voilà, on comprend donc quelle est l'importance au cours de la messe, des prières et des gestes qui vont favoriser une attitude de prière et de conversion. Enfin, troisième point, le sacrifice du Christ est un sacrifice de louange et d'action de grâce. Adoration, propitiation, louange et action de grâce. Dans le sacrifice du Christ sur la croix, en effet, l'humanité entière fait entendre son hymne de louange et d'action de grâce au Père pour le salut qu'elle a reçu. En cette nature humaine que le Christ porte en lui se trouve présente aussi la création entière, qui gémit en travail d'enfantement. Elle aspire à la liberté des enfants de Dieu. Et dans la liturgie, ça s'opère, ce renouvellement de toutes choses. Voyez. Donc la création tout entière, dans la liturgie, dans ce sacrifice du Christ qui est parfaite louange, elle retrouve son orientation vers le Créateur. En somme, dans le sacrifice du Christ que renouvelle la liturgie de l'Église, c'est le cosmos entier qui finalement se tourne à nouveau vers Dieu dans un chant de louange et d'action de grâce. Le pape Benoît XVI a beaucoup développé aussi cet aspect très important qu'on a tendance parfois à oublier. Et c'est aussi ça le vrai lieu de l'écologie chrétienne, il ne faut pas l'oublier. Ça s'opère aussi là, par des décisions aussi à côté. Mais déjà là s'opère ce retournement de la création qui retrouve le chemin de Dieu. Donc vous voyez, l'âme chrétienne devient ainsi participante d'un mouvement cosmique de retour au Père. C'est elle qui se fait le porte-voix d'une telle réorientation, englobant tout en tous, de sorte que son chant est le chant de la création entière. Vous voyez, dans les psaumes, on invite toute la création à louer Dieu par notre voix. On est le prêtre de la louange de la création. Donc le chant du chrétien est le chant de la création entière, déjà transfigurée en quelque sorte, même si sa transformation en des cieux nouveaux et en la terre nouvelle de l'éternité, vous le savez trop bien, n'est pas encore complète. On doit aussi lutter pour ça. Hein. Tout ceci devient réalité dans l'écoute attentive, respectueuse et silencieuse de la prière eucharistique. On appelle aussi le canon de la messe, mais la prière eucharistique. En celle-ci, qui est la grande prière d'action de grâce et de sanctification, le prêtre invite les fidèles, dit toujours la préface du Missel romain, à élever leur cœur vers le Seigneur dans la prière et l'action de grâce, et les associe à lui-même dans la prière solennelle qu'au nom de toute la communauté, il adresse à Dieu le Père par Jésus-Christ dans l'Esprit Saint. Le prêtre de la Roquée, il dit « nous hein, », il ne dit pas uniquement « je » dans la prière eucharistique. Le sens de cette prière, continue la préface, et que toute l'assemblée des fidèles est invitée à s'unir au Christ pour chanter les grandes œuvres de Dieu et pour offrir le sacrifice. Et vous remarquerez que le sommet de la prière eucharistique, c'est par lui, avec lui et en lui. Hein, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Voilà. C'est le sommet de la prière eucharistique. Et après ça, on peut dire tous ensemble notre Père. Vous voyez cette montée, hein, de cette offrande, on offre le corps du Christ et tous ensemble, on retourne au Père. Donc, vivre le mystère eucharistique comme cette montée de l'âme vers Dieu dans l'offrande unique du Christ. Maintenant, je retourne. Hein. Ça va encore? J'ai encore quelques minutes. J'ai peut-être été un petit peu copieux, mais bon, ça va. Ne dormez pas. Vous avez le droit de dormir, en tout cas. Hein. Ça fait de mal à personne. Maintenant, si vous voulez, au troisième point, donc on a vu la parole de Dieu, l'Eucharistie, l'Église en prière. Donc ça, c'est souvent un peu moins connu. C'est ce qu'on appelle la liturgie des heures. Alors, c'est les prêtres, on a réservé ça aux prêtres à tort, hein, mais le prêtre, il se tient, il prie pour son peuple. Mais vous êtes invité aussi, à votre mesure, à dire les louanges, la prière de l'Église, la liturgie des heures. Voilà, parce que ça rythme la journée en différents temps de prière. Vous connaissez les lourdes, vous connaissez les vêpres, évidemment, les complis. Hein. Et donc, ça, c'est une part importante que vous pouvez aussi, chacun à votre place, dire une heure, par exemple, au milieu du jour, ou le matin en vous levant, les laudes, vous voyez. Le Christ est présent lorsque l'Église prie et loue. Lui qui a fait cette promesse, là où deux ou trois personnes se trouvent réunies en mon nom, je suis au milieu d'elles. C'est encore une citation. Cette affirmation, qui est une citation du Concile, nous conduit à envisager l'itinéraire de l'âme vers Dieu. C'était ça un petit peu le sujet que j'ai voulu, le fil conducteur, si vous voulez, de cette sanctification, cette montée dans la liturgie vers Dieu. Donc nous conduit à envisager ce chemin de l'âme vers Dieu en tant qu'elle est insérée dans le mystère de l'Église. Et ici, mon intention est d'attirer l'attention sur trois points distincts de la question. Premièrement, je vais vous relire un passage de ce Divo Barsotti que je vous ai déjà cité, qui dit ceci. Le mystère de l'Église, que rend présent la liturgie, n'est pas l'assemblée visible. À travers elle et par elle, c'est toute l'Église qui est présente. Avec le Christ sont présents les saints, qui avec lui ne forment qu'un seul corps. Dieu qui se communique est présent, mais le Christ n'est pas réellement présent s'il n'est pas présent avec lui une humanité à laquelle il s'est vraiment communiqué. L'Église est présente non pas tant dans l'Assemblée que par l'entremise de l'Assemblée visible. L'Assemblée est la condition et le signe de la présence d'une Église qui chemine dans les hommes d'ici-bas et qui est déjà triomphante par la présence des saints. Vous avez toute l'Église, vous avez tout le ciel et toute la terre quand il y a une Assemblée qui se réunit pour prier, vous voyez. Pensez au sanctus de la messe. C'est les chérubins, c'est les séraphins, c'est le chant des séraphins. À ce moment-là, le ciel s'ouvre, hein. On n'y pense pas assez, hein, peut-être. Mais il y a communication directe entre le ciel et la terre. Il y a la fondatrice de... À Solène, il y a deux monastères. Vous avez un monastère de moines et un monastère de moniales. Et la fondatrice de moniales a écrit un livre sur l'oraison dans la liturgie, en fait. Elle parle, elle a un chapitre qui s'intitule comme ceci « Il n'y a qu'une liturgie ». Vous voyez, pour dire qu'en fait, liturgie du ciel, liturgie de la terre, on participe à cette unique liturgie qui est celle du Christ, en fait, dans son mystère pascal, hein, toujours. On revient toujours à ça. C'est vraiment le centre. Si vous voulez retenir une seule chose, c'est ça. Le mystère pascal du Christ. Donc, de la sorte, l'âme chrétienne, à travers l'action liturgique, renouvelle et approfondit l'expérience de l'Église, qui est communion intime du ciel et de la terre. Dans la liturgie, le ciel de Dieu se rend présent sur la terre de l'homme. Et l'homme reste comme impressionné, au sens étymologique, par ce ciel, du fait que la grandeur et la beauté du Christ total, donc Christ total, la tête et son corps, qui est l'Église, du fait que la grandeur et la beauté du Christ total s'impriment dans son cœur, le rendant capable de témoigner et d'espérer. Capable de témoigner parce que l'empreinte du ciel qu'il porte en lui, pour ainsi dire, devient par elle-même une voix éloquente pour le monde, un appel convaincant vers la vérité et la joie du salut. La liturgie est missionnaire aussi, vous voyez. C'est pas uniquement une petite célébration entre nous, entre gens initiés. Elle est un appel, en fait, vous voyez. Si je me laisse transformer, eh bien je vais toucher, je vais appeler, je vais être missionnaire. Et la beauté de la liturgie est missionnaire. Il y a des gens qui se convertissent en entrant pendant une messe, pendant l'action de l'Esprit Saint. Il n'y a pas que la beauté extérieure d'un rite, mais moi j'en connais, j'en ai connu. Un jeune maghrébin, un jour, qui est venu me dire, il est rentré dans une église, il assistait à une messe, et c'était voilà. Il a commencé à cheminer. Il a été saisi par une beauté, par une présence. C'est des choses actuelles. Hein. Il m'a dit ça l'année dernière, je ne l'invente pas. Et un garçon qui venait vraiment de... Il a poussé la porte de l'église. Bon, il était attiré par le Seigneur, hein, c'est sûr. Mais vous voyez, donc capable de témoigner, capable d'espérer, parce que ce que ses yeux ont vu ouvre le temps à l'éternité de Dieu et constitue la promesse d'un pour toujours qui nous attend après la fin de notre vie d'ici-bas. La liturgie, elle tourne nos yeux vers le ciel, vous voyez, et pas uniquement vers la terre. On a une espérance qui est dans les cieux, vous voyez. Et plus je participe au mystère liturgique, plus je m'habitue à vivre aussi dans la réalité qui m'est promise, qui nous est promise. Voyez. Et je ne suis pas uniquement enfermé eh bien, dans ma réalité qui peut être douloureuse, qui peut être... Mais j'ai une espérance, j'ai un horizon. Voyez. Notre horizon, c'est Dieu. Quel bel horizon. Ce n'est pas le trou de la tombe, hein. D'autre part, la célébration liturgique en rendant présent le mystère de l'Église permet à l'âme chrétienne de prendre part à ce cheminement spirituel défini par Romano Guardini, qui est un liturgiste du XXe siècle, qui a beaucoup inspiré le pape Benoît XVI, c'est un Allemand, malgré son nom italien, qui a inspiré tout le mouvement liturgique qui a abouti à la réforme du Concile Vatican II. Donc, je reprends ma phrase. La célébration liturgique en rendant présent le mystère de l'Église permet à l'âme chrétienne de prendre part à ce cheminement spirituel défini par Romano Guardini comme le réveil de l'Église dans les âmes. Le réveil de l'Église dans les âmes. C'est là en effet que se fait sentir la vitalité de l'Église. Là que l'on entre en contact avec une réalité vivante qui embrasse le temps et l'espace et les ramène à Dieu. Là que l'on prend conscience de faire partie d'une communion d'amour qui descend du chef, c'est-à-dire du Christ, et nous font, nous, ses membres, en un seul corps. On a besoin de faire cette expérience de la communion, voyez. Si on priait chacun dans sa chambre, voyez, dans des alcôves, je ne sais pas, on aurait du mal à faire cette expérience réelle de qui on est, le corps du Christ, voyez. Un seul être. Hein. Et on sait combien c'est difficile, la communion. Parce que, voilà, on a vraiment notre identité personnelle. Alors, ça ne demande pas une fusion, une perte de son identité. Mais oui, on est quand même très égoïste en général. Enfin, moi en tout cas, pas vous, mais... Donc, pour faire ce mystère de la communion, il faut vivre ensemble, il faut... Voilà. Pour comprendre progressivement que je fais partie d'un corps, que je ne suis pas un membre isolé, vous voyez. Je ne suis pas un pouce tombé par terre, voilà. Moi, je fais partie d'un corps. Constitué d'un mystère d'amour. L'âme chrétienne devient elle-même église parce qu'en elle se rend en quelque façon présent le mystère de l'unité entre le ciel et la terre. En même temps que le Seigneur, les saints sont présents dans l'église en prière. La liturgie, c'est aussi la présence des saints, de ceux qui sont définitivement vivants dans le Christ, ici parmi nous. Dans les liturgies chrétiennes, les saints sont toujours associés au chant, à l'action de grâce. Vous voyez, on pleure jamais sur les saints. Quand on parle des saints, c'est toujours pour les chanter, pour les célébrer. Associés au chant, à la prière de ceux qui n'ont pas achevé l'expérience constituée par leur pèlerinage terrestre. Les saints, donc, ne sont pas seulement des intercesseurs à qui recourir. Je vais mettre un cierge à Saint-Antoine, C'est très bien. D'ailleurs, il répond très très bien, ça va pas. Je vous conseille. Je vais vous raconter une histoire, une anecdote authentique. Je pense que ça vaut le coup quand même, Saint-Antoine, pour vous inciter à le prier. C'est pas uniquement du folklore. Il y avait un moine de ma congrégation qui est ensuite devenu abbé. Il est décédé il y a deux ans, je crois, maintenant. Il a été très très longtemps secrétaire à la congrégation du culte des saints à Rome. Il a dû passer 25 ans, je crois. Et alors, il avait besoin d'un dossier très urgent. Il avait demandé à un secrétaire d'aller aux archives, de sortir ce dossier. Et le temps passait, le dossier n'arrivait pas, et il va voir son secrétaire, il lui dit « Mais enfin, vous n'avez toujours pas trouvé ce dossier ?» Et l'autre lui dit « Impossible de mettre la main dessus, je suis désolé, on ne le retrouve pas. » Alors le père dit « Mais c'est pas possible. » Alors il se précipite aux archives, il ouvre la porte des archives, c'est lui qui l'a raconté, mais bon, c'est authentique. Il ouvre la porte des archives et il dit, comme ça, à voix haute, « Saint-Antoine de Padoue, si je ne retrouve pas immédiatement ce dossier, je vous fais rayer du calendrier de l'Église universelle. » Il fait trois pas en avant, il prend un dossier, c'était celui-là. Authentique, hein, authentique. Donc vous pouvez prier Saint-Antoine, pas uniquement pour les choses perdues. Hein, voilà. Donc les saints ne sont pas seulement des intercesseurs hein, à qui recourir pour demander des grâces et des secours, ni non plus seulement des exemples à imiter pour mieux suivre le Seigneur. Évidemment, c'est bien, hein, sur la route par laquelle il mène ses disciples. Vous voyez, on ne doit jamais imiter un saint, en fait, je veux dire ça. On peut l'admirer, on peut le prier, on ne doit pas l'imiter, parce qu'on tombe dans la caricature. Vous voyez, il n'y a qu'une sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Parce que toutes les autres, c'est des fausses saintes Thérèses. Elles jouent la comédie. Ce qui est important, c'est que vous trouviez votre grâce particulière, votre sainteté, vous voyez. On avait demandé à un père abbé de Solesmes s'il aimait Élisabeth de la Trinité. Vous connaissez Sainte, elle a été canonisée, une carmélite de Dijon, morte à 26 ans. Alors c'était au début du 20e, elle était à peine connue, il y a juste un livre qui venait de sortir du père Philippon, qui avait été son père spirituel. Et alors le père abbé avait lu ce livre et il avait apprécié enfin, la figure spirituelle de cette jeune carmélite. Et il y a une sœur, un jour, qui lui écrit en lui disant « Est-ce que vous aimez Élisabeth de la Trinité ?» Alors il dit « Oui, j'aime Élisabeth de la Trinité, mais parce qu'elle a vécu son baptême à fond, voyez ? Parce qu'elle a vécu les promesses de son baptême. Je ne l'aime pas parce qu'elle a fait telle ou telle chose. » Il disait aussi parce qu'elle aimait Saint Paul, lui aussi il aimait Saint Paul. Et il rajoute à cette sœur, il lui dit « Ma sœur, ne vous grimez jamais. » C'est-à-dire, n'imitez pas les saints en essayant de prendre des postures extérieures, mais trouvez votre sainteté qui est celle de votre baptême. La grâce unique que vous avez reçue d'être vous-même dans la lumière de Dieu. Oui. Chacun de nous est unique, chacun de nous a été voulu pour lui-même par Dieu. C'est quand même un mystère extraordinaire. Savoir que je suis aimé, tout l'amour de Dieu repose sur chacun de nous. Quand on peut prendre un petit peu connaissance de ce mystère, eh bien, ça peut transformer un peu notre vie. Oui. Et moins de jalousie. Puisqu'on a tous, on a tout. Hein. Et on est les membres d'un corps, justement, les uns pour les autres. Donc, les saints dans la liturgie de l'Église sont présents, faisant partie d'une grande famille qui vit dans le temps et en dehors du temps. De la sorte, le pèlerin, toujours sur la terre, surmonte sa solitude et éprouve la joie vivante d'une appartenance commune qui le soutient dans sa marche par les routes de ce monde. Vous savez que le canon romain, la première prière eucharistique, nous invite à songer d'abord au cœur des anges, puis aux apôtres, puis aux martyrs, aux confesseurs, aux vierges. Enfin, il parle des hommes qui vivent ici-bas. Vous voyez, il n'oublie rien. De nous autres pécheurs, hein, il parle de nous à la fin. En nous retrouvant compagnons de voyage, de ceux qui sont déjà arrivés au but, nous sentons notre courage se renouveler pour parcourir nous aussi le chemin qui les a conduits à la sainteté. Leur présence devient un stimulant qui nous pousse à ne pas tergiverser, à abandonner les compromissions avec ce qui est du monde, à couper toute attache avec le péché, à tourner résolument notre esprit et notre cœur vers le vrai bien. Alors évidemment, je vais terminer par là. Dans le mystère de l'Église, que la liturgie nous rend présent, apparaît aussi la personne de la très sainte Vierge Marie. En effet, toute l'Église se retrouve parce que Dieu s'est donné totalement à elle. Elle est quand même au cœur du mystère. En elle, nous voyons ce qu'est la rédemption achevée, parfaitement accomplie. Elle est un miroir pour nous, voyez, de ce à quoi nous sommes appelés. La liturgie contemple Dieu qui se communique au monde dans le Christ. Je reviens à ce mouvement dont j'ai parlé au début. Mais elle contemple aussi un monde tout entier envahi par la gloire de Dieu. Et ce monde, c'est la Vierge Marie. Elle n'a mis aucun obstacle à la grâce de Dieu en elle. La création entière ne recevra plus jamais Dieu comme l'a reçu Marie. Mystère de la présence de Dieu sur la terre. La Vierge ne dit rien d'autre que Dieu. Elle, qui est pure transparence, n'arrête pas sur elle les regards, mais les renvoie vers Dieu. C'est le vrai sens de la dévotion mariale. Telle est la Vierge, telle est aussi l'Église, l'épouse qui s'abandonne totalement à l'amour pour le recevoir tout entier. Dans la contemplation liturgique de la Vierge épouse, l'âme chrétienne apprend quel est son propre appel. Vous voyez, la Vierge Marie est une image pour nous, elle est un appel. C'est notre vocation à tout ce qui est contenu, en fait, dans le mystère de Marie. Nous avons tous une vocation mariale. Vous voyez, c'est très grand. Cette vocation d'obéissance à la parole de Dieu. Devenir épouse, voilà ce qui rend présent en elle le mystère de l'Église. Voilà le but auquel la conduit l'amour du Seigneur, et elle doit en toute générosité s'abandonner à celui-ci. Lorsque saint Ambroise regarde la Vierge et lance à l'âme chrétienne son invitation passionnée, « Que l'âme de Marie soit en chacun pour dire que le Seigneur est grand, que l'esprit de Marie soit en chacun pour exulter en Dieu », saint Ambroise ne dit pas autre chose que cela. En laissant son propre cœur s'ouvrir à l'âme et à l'esprit de Marie, l'homme accueille en lui une dimension nuptiale, c'est-à-dire d'union avec le Christ. Nous sommes faits pour l'union avec Dieu. Voyez.